Ignacio Ramonet, on est frappé par la... comment c'est le mot est faible, la bipolarité de la société. Hein. Ici, il y a vraiment pro-Chavez, anti-Chavez. On a l'impression qu'il n'y a presque rien au milieu. Alors, on nous dit, nous, on arrive là, on nous dit que l'agressivité, la tension entre les deux camps s'atténue un peu, mais ça reste extrêmement violent.
Disons, les deux camps sont des camps irréconciliables, pratiquement, actuellement. Ça fait déjà tout de même, disons, 6 ans qu'il y a cette espèce d'affrontement. Dans une certaine mesure, l'opposition pensait qu'elle allait l'emporter le 15 août dernier, lors du référendum révocatoire. Tout s'est joué là. Depuis, effectivement, elle est un peu sous le choc. Et pour ma part, je constate que les grands médias, qui ont été toujours très opposés, qui ont donné le ton, disons, de cette agressivité, les grands médias ont légèrement atténué les attaques systématiques et quotidiennes, comme on pouvait les voir il y a encore 2 ou 3 ans.
Ignacio Ramonet, quand on dit deux camps, c'est pas deux camps équivalents en nombre.
Ben, c'est-à-dire le référendum révocatoire, qui est quand même, disons, l'élection à laquelle a participé le plus grand nombre de citoyens, a donné globalement, disons, 60-40, 60 en faveur de 59 en faveur de Chavez, 41 en faveur de l'opposition. Donc on a maintenant à peu près une idée, disons, de la dimension de chaque camp. Hein. Les deux parties ont pu se compter finalement. Hein. Et c'est pour ça que je disais qu'en particulier l'opposition, qui s'était convaincue qu'elle allait l'emporter, parce que elle s'était énormément battue pour ce référendum révocatoire. Et ce qui est d'ailleurs une bataille un peu paradoxale, parce que c'est dans la constitution bolivarienne, constitution bien sûr qui a été, imaginée, proposée par Chavez, et qui contient cet article tout à fait étonnant, qui fait que n'importe quel élu, une fois passé la moitié de son mandat, si une partie importante de ses électeurs, de ceux qui l'ont élu, considère qu'il doit remettre son mandat en jeu, doit le faire. Bon, ça n'existe pratiquement dans aucun pays que je connaisse. Eh bien, l'opposition a réclamé que cet article s'applique au président, ce qu'il a finalement fait, et il l'a emporté, alors que l'opposition croyait avoir là l'argument total. Donc c'est ça, les deux camps, qui ne sont pas évidemment de taille égale, mais une opposition de 40%, c'est tout à fait important, je veux dire, le pouvoir.
C'est tout à fait important, et c'est une opposition qui est puissante, qui dispose de moyens, qui dispose des médias. Il a une opposition de gauche, Ignacio Ramonet, que vous connaissez bien. Il a quand même du monde contre lui.
Il a contre lui, disons, le patronat. Il faut pas oublier que le coup d'État du 11 avril 2002 est dirigé par le patron des patrons.
Le Célière vénézuélien.
C'est-à-dire monsieur Carmona, qui devient
président. Dictateur d'un jour.
Voilà, pour deux jours. Il a donc les milieux d'affaires. Il a les syndicats, les grands syndicats officiels qui ont été très corrompus, mais la Confédération du Travail vénézuélienne est dans l'opposition. Elle a conduit des grèves extrêmement dures contre le pouvoir. Il a contre lui, disons, ce qu'on appelle la bourgeoisie, et une grande partie des classes moyennes, qui ne sont pas très importantes, mais qui comptent beaucoup sur le plan intellectuel. Beaucoup d'intellectuels, bien entendu, les intellectuels les plus en vue, et qui étaient souvent, qui se réclamaient de l'ensemble des gauches, voire de l'extrême gauche, des anciens guérilleros, etc. D'ailleurs, certains de ces anciens guérilleros, en particulier Petkov, pour ne pas le nommer, qui dirige ici un des journaux les plus agressifs, les plus violents, contre le président, qui est un ancien guérillero, et ce trotskiste ou ex-trotskiste est devenu ministre du président, disons, démocrate chrétien, Rafael Caldera, qui était juste le président antérieur au président Chavez, et il était ministre des privatisations. Et il faisait des voyages à travers le monde pour dire aux investisseurs, venez acheter nos richesses. Bon, vous voyez que les conversions ont été importantes. Alors, une grande partie, disons, de ces intellectuels sont effectivement hostiles au président. Donc, l'opposition est très importante, et je crois d'ailleurs, et le pouvoir d'ailleurs le fait, qu'il faut tenir compte qu'il y a cette opposition-là. L'une des caractéristiques de ce qui se passe ici, c'est que ça se passe dans un cadre démocratique très actif. Très actif. Et que une des caractéristiques également de ce qu'on appelle la révolution bolivarienne, c'est que le caractère démocratique de ce qui se passe a été renforcé par la Constitution, ne serait-ce que par cet article dont je parlais avant, qui est un article qui permet à la population, c'est-à-dire aux électeurs, de renvoyer les élus une fois la moitié du mandat échu, s'ils ne sont pas contents. Eh bien, ce qui a sauvé au moment du référendum révocatoire ce gouvernement, c'est que il y avait dans ce pays des millions de personnes qu'on pouvait appeler des invisibles, qui étaient donc en grande partie dégoûtées par le fonctionnement de la politique ici, puisque bon, les changements politiques se faisaient entre deux partis, comme on sait, les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, et que leurs conditions ne changeaient pas. Et non seulement ils sont devenus visibles, mais ils sont devenus citoyens. Et puis d'autre part, il y a maintenant une politique d'éducation, une politique de santé, une politique, si vous voulez, d'activité populaire. Il y a des programmes d'alphabétisation d'adultes. Ici, toutes les écoles sont ouvertes les samedis et les dimanches, toute la journée, uniquement pour l'alphabétisation des adultes. Et il y a des cas tout à fait spectaculaires, bien entendu, des personnes de 60, 70 ans qui apprennent pour la première fois à lire et qui découvrent le monde, bien entendu.